quand on évoque la Rome antique, ce sont souvent ses exploits militaires, ses intrigues politiques ou ses monuments grandioses qui viennent à l'esprit. Mais qu'en est-il de la vie ordinaire, des habitudes et des préoccupations d'un citoyen romain dans son quotidien ? S'intéresser à cet aspect permet de dépasser l'image des grands personnages et des événements marquants pour plonger dans le tissu social, culturel et économique qui faisait battre le cœur de la cité. La vie quotidienne d'un citoyen romain est reconstituée grâce à de nombreuses sources historiques, comme les textes de Cicéron qui décrivent la vie publique et privée, ou les comédies de Plaute qui dévoilent des scènes familières et populaires. Les biographies de Suétone offrent des anecdotes précieuses, tandis que les inscriptions épigraphiques et les découvertes archéologiques, notamment à Pompéi, Ostie ou Rome, nous permettent de toucher du doigt des fragments de cette réalité. Nous verrons que la citoyenneté romaine, au centre de cette vie quotidienne, conférait des privilèges significatifs, notamment le droit de vote, la protection légale ou encore l'accès à des fonctions publiques réservées. Toutefois, cette étude se concentre principalement sur les citoyens hommes libres vivant en milieu urbain, car ces derniers bénéficiaient pleinement de ces droits et sont les mieux documentés. Les femmes, les esclaves et les étrangers, bien que présents à la société, restent souvent en marge de ces récits. Retour donc sur la vie quotidienne des citoyens dans la Rome antique, une civilisation fascinante de par sa complexité, où les gestes les plus simples reflétaient une société organisée, riche et profondément ancrée dans son époque. Bon visionnage. Le statut de citoyen romain était l'un des piliers fondamentaux de la société romaine, conférant à ceux qui en jouissaient des droits, des privilèges, mais aussi des devoirs qui structuraient la vie civique et sociale de l'Empire. Être citoyen romain signifiait appartenir à une élite juridique et sociale, même si cette appartenance s'élargit progressivement avec l'expansion de Rome et l'évolution de ses institutions. Les privilèges liés à la citoyenneté étaient nombreux et touchait à presque tous les aspects de la vie quotidienne. L'un des symboles les plus marquants du statut de citoyen était le droit de porter la toge, vêtement emblématique de la romanité. Ce vêtement, réservé aux citoyens mâles, était un signe extérieur de leur appartenance à une communauté politique et culturelle prestigieuse. De plus, les citoyens avaient accès aux grands jeux publics, spectacles financés par l'État et par de riches mécènes pour divertir le peuple. Ces jeux, qu'il s'agisse de courses de chars au Circus Maximus, de combats de gladiateurs dans les amphithéâtres ou de représentations théâtrales, étaient un moyen pour les citoyens de participer à la vie collective et d'affirmer leur identité commune. Un autre avantage de la citoyenneté était l'accès à l'annona, la distribution publique de blé subventionnée par l'État. Cette mesure, mise en place pour répondre aux besoins alimentaires des habitants de Rome, assurait une certaine stabilité sociale en garantissant que les citoyens les plus modestes ne souffrent pas de la faim. Ces privilèges économiques et sociaux s'accompagnaient de droits politiques et juridiques significatifs, tels que le droit de voter dans les assemblées, de se présenter à des magistratures ou bien encore de faire appel devant l'empereur en cas de litige judiciaire. Cependant, la citoyenneté n'était pas figée et son extension aux populations conquises fit l'objet de nombreux débats au cours de l'histoire romaine. Un des tournants majeurs de cette évolution fut l'édit de Caracalla en 212, également connu sous le nom de Constitutio Antoniniana. Par cet édit, l'empereur accorda la citoyenneté romaine à presque tous les hommes libres de l'Empire, un acte qui transforma profondément la structure de la société romaine. Si cette décision permit de renforcer le sentiment d'unité au sein de l'Empire et d'accroître les revenus fiscaux en élargissant la base des contribuables, elle suscita également des critiques. Certains traditionnalistes romains considéraient que cet élargissement diluait la valeur symbolique de la citoyenneté et réduisait le privilège qu'il représentait pour les anciens citoyens de souche romaine ou italienne. Mais la citoyenneté romaine n'était pas seulement un ensemble de privilèges, elle impliquait aussi des devoirs et des responsabilités. L'un des principaux devoirs du citoyen était de payer les impôts, bien que cette obligation fût parfois limitée ou conditionnée selon le statut social et la période historique. Par exemple, les citoyens romains résidant en Italie furent ainsi exemptés de certains impôts directs pendant une grande partie de la République et du Haut Empire, ce qui renforçait leur sentiment de privilège par rapport aux habitants des provinces. Cependant, cette exemption ne dura pas éternellement, et sous l'Empire tardif, la pression fiscale s'intensifia pour financer les guerres et le maintien de l'administration impériale. Le service militaire était un autre devoir essentiel de la citoyenneté, particulièrement durant la République, où l'armée était composée presque exclusivement de citoyens romains. Servir dans les légions était à la fois un devoir civique et une source de fierté, car les soldats citoyens jouissaient de certains avantages, comme la perspective de recevoir des terres à la fin de leur service. Avec le temps, cependant, l'armée s'ouvrit davantage aux non-citoyens, et les citoyens furent de moins en moins nombreux à être mobilisés, sauf en cas de crise majeure. La participation à la vie civique était également un aspect clé de la citoyenneté romaine. Cela impliquait de voter lors des élections, de participer aux assemblées populaires et, pour les plus riches, d'assumer des charges publiques. Ces dernières pouvaient inclure le financement et la construction d'infrastructures publiques telles que des thermes, des aqueducs, des routes ou bien des temples. Ce système, connu sous le nom de patronage, permettait aux citoyens aisés de démontrer leur loyauté envers Rome et leur générosité envers leurs concitoyens, en échange des gagnés en prestige social et en influence politique. Une anecdote révélatrice de ce système est celle de Marcus Agrippa, fidèle allié d'Auguste, qui finança et fit construire de nombreux édifices publics à Rome, dont le célèbre Panthéon. Ce système de devoirs et de privilèges formait un équilibre complexe qui permit à Rome de maintenir sa cohésion sociale pendant plusieurs siècles. Le statut de citoyen romain n'était pas seulement une question de droits légaux, c'était un marqueur d'identité, un lien avec la grandeur de Rome et un engagement envers la collectivité. À travers les âges, il évolua, mais il conserva toujours cette double dimension de privilège et de responsabilité qui le rendit si emblématique de la civilisation romaine. L'habitat romain reflète, de manière frappante, les différences sociales qui structuraient la société de l'Antiquité. À travers deux types d'habitations principales, la domus, résidence luxueuse des élites, et l'insula, immeuble souvent insalubre où vivaient les citoyens moins fortunés, se dessine une image saisissante des contrastes entre les classes sociales de Rome. Ces constructions, bien plus que de simples lieux de vie, illustraient les ambitions, les priorités et parfois même les tensions au sein de cette civilisation. D'un côté, les domus représentaient l'opulence et le raffinement d'une minorité privilégiée. De l'autre, les insulés incarnaient les conditions de vie précaires de la majorité des habitants de la ville, souvent entassés dans des espaces exigus. La domus, résidence urbaine des citoyens aisés, était un symbole de prestige et un espace conçu autant pour la vie privée que pour les relations sociales et politiques. Ces maisons, souvent situées dans les quartiers les plus prisés de Rome ou des autres grandes cités de l'Empire, étaient organisées autour d'un atrium, une cour centrale qui servait de lieu de réception et de représentation. L'atrium était souvent entouré de colonnes, orné de statues, de fresques et de mosaïques colorées et possédait un bassin appelé impluvium, destiné à recueillir l'eau de pluie. Cet espace visible dès l'entrée reflétait la richesse et le goût artistique du propriétaire. Derrière l'atrium, le tablinum, une pièce centrale, servait de bureau ou de salle de réception pour les visiteurs importants, soulignant une fois de plus le rôle public de la domus. Plus loin, on trouvait le péristyle, une cour intérieure entourée de portiques et souvent aménagée en jardin. Ce lieu, réservé à la famille, était un havre de paix éloigné du tumulte de la ville. Les murs des domus étaient richement décorés de fresques représentant des scènes mythologiques, des paysages ou bien des motifs géométriques. Les sols, quant à eux, étaient ornés de mosaïques complexes, témoignage de l'habileté des artisans romains. Un exemple célèbre de domus est la maison des Vitii à Pompéi, appartenant à deux riches frères affranchis. Cette demeure illustre parfaitement l'architecture aristocratique romaine avec son atrium majestueux, ses fresques somptueuses et ses jardins luxuriants. Cette maison est également un exemple frappant de la manière dont l'habitat pouvait symboliser l'ascension sociale, car ses propriétaires, bien que nés esclaves, avaient réussi à atteindre une position enviable dans la société grâce à leur fortune. En contraste saisissant avec la domus, les insulés, ou immeubles collectifs, étaient le lot des citoyens moins fortunés. Ces constructions, souvent situées dans des quartiers les plus denses et bruyants de Rome, étaient conçues pour accueillir le plus grand nombre de locataires possible. Les insulés étaient généralement bâtis en hauteur, certaines atteignant jusqu'à 7 étages, avec des matériaux souvent peu solides, comme le bois ou les briques mal cuites. Ces immeubles étaient divisés en appartements exigus, appelés cenacula, qui ne disposaient souvent que du strict minimum. Les rez-de-chaussée étaient parfois occupés par des boutiques ou des ateliers, tandis que les étages supérieurs, accessibles par des escaliers étroits et dangereux, étaient réservés au logement. Plus on montait, plus les conditions de vie devenaient précaires, les derniers étages étant les plus mal isolés et les plus exposés aux intempéries. Les insulés étaient particulièrement vulnérables aux incendies et aux effondrements. L'histoire romaine a été marquée par plusieurs catastrophes liées à ces constructions, plus célèbres étant l'incendie de Rome sous Néron en 64 après Jésus-Christ. Cet incendie, qui détruisit une grande partie de la ville, mit en lumière les dangers que représentaient les insulées mal construites et entassées dans des rues étroites. En réponse à cette tragédie, des mesures furent prises pour sécuriser les habitations, comme l'utilisation accrue de matériaux ignifuges, tels que la pierre, et l'interdiction de dépasser une certaine hauteur pour les nouveaux immeubles. Cependant, ces réformes ne furent que partiellement appliquées et les insulés continuèrent à symboliser les conditions de vie précaires des classes populaires. Les différences entre la domus et l'insula illustraient parfaitement les inégalités sociales de la Rome antique. Les citoyens aisés vivaient dans le confort et le luxe, entourés de jardins, d'œuvres d'art et de serviteurs, tandis que la majorité de la population devait se contenter d'un espace réduit, souvent insalubre, et d'une sécurité précaire. Cette séparation se reflétait également dans l'aménagement urbain. Les quartiers riches, comme le Palatin à Rome, étaient situés sur les hauteurs, à l'écart des nuisances, tandis que les quartiers populaires, comme le Subur, étaient denses, bruyants et peuplés d'insulés. Malgré ces contrastes, la cohabitation entre ces deux types d'habitats contribuait à façonner le tissu social romain. La domus, en plus d'être un lieu de résidence, jouait un rôle central dans les relations sociales et politiques, accueillant les clients et les amis du propriétaire lors des salutations, ces visites matinales au cours desquelles les citoyens plus modestes venaient solliciter des faveurs ou des aides. De leur côté, les insulées, bien que moins prestigieuses, étaient des espaces où la vie collective était intense, les habitants partageant des ressources comme les fontaines publiques ou bien les fours à pain communautaires. La journée typique d'un citoyen romain, qu'il soit membre de l'élite ou appartenant à une classe plus modeste, reflétait les rythmes sociaux, religieux et politiques d'une civilisation structurée autour de traditions bien établies. Dès les premiers rayons du soleil, le citoyen romain s'éveillait pour entamer une routine ancrée dans le respect des dieux domestiques et des obligations civiques. Le lever se faisait souvent à l'aube, car la lumière naturelle dictait le rythme des activités dans une société où l'éclairage nocturne était limité. Après une toilette sommaire, généralement à base d'eau froide puisée dans les citernes ou les bassins domestiques, le citoyen consacrait un moment aux lares et pénates, les divinités protectrices du foyer. De petites offrandes, comme de la nourriture ou de l'encens, étaient déposées devant l'autel familial pour demander protection et prospérité. Une fois ses devoirs religieux accomplis, la matinée était consacrée à une activité fondamentale dans la vie sociale romaine, le clientélisme. C'est ainsi que les citoyens moins fortunés, appelés clientes, se rendaient chez leur patronus, une figure de l'élite qui les soutenait en échange de leur loyauté. Cette visite, appelée salutatio, était un rituel quotidien essentiel. Les clients venaient saluer leur patron à son domicile, souvent dans l'atrium de sa domus, où ils attendaient leur tour pour demander des faveurs, des recommandations ou bien des aides financières. En retour, le patron pouvait compter sur leur soutien lors des élections, des rassemblements publics ou même des procès. Ce système, qui renforçait les liens entre les différentes classes sociales, était à la fois une obligation, mais aussi un moyen de survie pour les citoyens modestes. Après la salutatio, les citoyens romains se rendaient au cœur vibrant de la vie urbaine, le Forum. Cet espace central, entouré de temples, de basiliques et de portiques, était le lieu où se concentraient les affaires politiques, juridiques et commerciales. Pour les citoyens aisés, la matinée pouvait être rythmée par des débats politiques ou bien des plaidoiries dans les tribunaux. Un exemple célèbre est celui de Cicéron, l'un des orateurs et avocats les plus brillants de Rome, qui fréquentait régulièrement le forum pour défendre ses clients ou prononcer des discours politiques. Les affaires commerciales occupaient également une place importante dans la vie sociale des citoyens. Les marchands et artisans y installaient leur échoppe, tandis que les citoyens ordinaires venaient négocier, acheter des produits ou simplement observer les activités. Pour les plus ambitieux, le forum offrait l'occasion d'étendre leur réseau social et d'affirmer leur position dans la société. Après une matinée bien remplie, l'après-midi était souvent consacré à des activités plus personnelles ou récréatives. Certains citoyens, notamment les riches, profitaient des thermes, ces complexes publics où l'on venait non seulement pour se laver, mais aussi pour socialiser. Les thermes offraient des bains chauds, tièdes et froids, des espaces de repos, des gymnases et parfois même des bibliothèques. Ces lieux étaient accessibles à un coût modique, permettant à presque tous les citoyens de s'y rendre, bien que la qualité des installations varie selon les quartiers. Pour d'autres, l'après-midi pouvait être consacré à la gestion de leurs affaires domestiques ou rurales, notamment pour ceux qui possédaient des terres en dehors de la ville. Le soir venu, la journée culminait avec la cena, le repas principal, qui représentait un moment social crucial dans la vie des Romains. La cena pouvait être simple pour les citoyens modestes, consistant en des aliments de base comme du pain, des légumes, du fromage et parfois un peu de viande ou de poisson. Pour les plus riches, cependant, ce repas était un véritable banquet composé de plusieurs services. Ces dîners, souvent somptueux, étaient une occasion de démontrer son statut social et son raffinement. Les convives étaient allongés sur des lits autour de la table et les plats étaient accompagnés de conversations, de lectures, de poésies ou même de spectacles. Les récits de ces banquets abondent dans les textes anciens, notamment chez Pline le Jeune, qui décrit dans ses lettres le rythme de ses journées et l'importance qu'il accordait aux moments de détente intellectuelle et gastronomique. Pline se levait tôt pour travailler sur ses écrits, mais le soir, il s'entourait d'amis pour discuter de littérature, de philosophie ou d'affaires publiques, tout en partageant un repas. Cette organisation quotidienne, bien que variable selon le rang social et les obligations de chacun, témoignait de la cohésion et de l'ordre qui structurait la société romaine. Chaque moment de la journée, du lever au coucher, était marqué par des rituels, des relations sociales ou bien des activités reflétant l'importance des traditions et des institutions. Les vêtements et l'apparence d'un citoyen romain étaient bien plus qu'une simple question de mode ou de fonctionnalité. Ils représentaient des marqueurs sociaux, des symboles d'appartenance et un moyen d'afficher son statut dans une société hiérarchisée. Comme nous l'avons vu, le vêtement le plus emblématique de la citoyenneté romaine était sans conteste la toge, un large morceau de tissu en laine drapé sur le corps, réservé exclusivement aux citoyens romains de sexe masculin. Porter la toge n'était pas seulement une obligation légale, mais aussi une manière de se distinguer des étrangers, des esclaves ou des non-citoyens. L'art de bien porter la toge nécessitait une certaine maîtrise, car son drapé complexe demandait du soin et de l'attention, renforçant ainsi son image de vêtement prestigieux. Différents types de toges existaient, reflétant le rang social ou bien les fonctions de celui qui la portait. Par exemple, la toga prétexta, bordée d'un liseré pourpre, était réservée aux magistrats, aux sénateurs et aux jeunes garçons issus de familles patriciennes avant qu'ils n'atteignent l'âge adulte. Les empereurs, quant à eux, portaient la toga picta, ornée de pourpre et de broderies dorées, un symbole suprême d'autorité. Outre la toge, les hommes portaient une tunique, un vêtement plus simple, souvent en lin ou en laine, qui servait de base à leur habillement. Les citoyens ordinaires se contentaient de tuniques unies et fonctionnelles, tandis que les citoyens aisés, ou bien les sénateurs, arboraient des tuniques brodées ou décorées de bandes pourpres, appelées clahui, indiquant leur rang. Ces vêtements étaient conçus pour refléter non seulement le statut social, mais aussi la modestie et la discipline, des valeurs très prisées dans la culture romaine. L'apparence personnelle occupait également une place importante dans la vie quotidienne, et l'hygiène corporelle, comme on l'a vu, était intimement lié au terme public, ces complexes qui servaient à la fois de lieu de bain et de sociabilité. Les citoyens romains fréquentaient régulièrement ces établissements pour se laver, se détendre et échanger avec leurs pairs. Les thermes comprenaient des bains chauds, tièdes et froids, ainsi que des espaces pour se faire masser ou pratiquer des exercices physiques. Ils étaient accessibles à presque tous grâce à leur coût modique, bien que les plus prestigieux, comme les thermes de Caracalla ou ceux de Dioclétien, soient aussi un moyen pour les empereurs de démontrer leur générosité envers le peuple. Les bains publics étaient des lieux bruyants et animés, comme en témoigne Sénèque, qui se plaint dans ses écrits des sons incessants des thermes, les cris des sportifs, les cliquetis des masseurs et le vacarme des discussions. Ces lieux n'étaient pas seulement des espaces d'hygiène, mais aussi des endroits où se renforçaient les liens sociaux, où les hommes discutaient d'affaires, de politique ou de philosophie. Le soin du corps ne se limitait pas aux bains. En effet, les citoyens romains accordaient une grande importance à leur apparence, en particulier à leur coiffure et à leur pilosité. À l'époque républicaine, porter la barbe était courant, mais sous l'influence de la culture grecque et à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, le visage rasé devint un signe de raffinement. Les barbiers ou tonsores jouaient un rôle crucial dans la société romaine, offrant leurs services dans les échoppes ou à domicile pour les plus riches. Une chevelure soignée, des ongles bien taillés et une peau parfumée à l'huile faisaient partie des standards d'élégance. Les huiles parfumées, souvent importées d'Orient, étaient utilisées non seulement pour hydrater la peau, mais aussi pour masquer les odeurs corporelles dans une ville parfois insalubre. Les accessoires complétaient également l'apparence des citoyens romains. Les plus riches arboraient des bijoux, comme des bagues en or ou en argent, qui servaient à la fois d'ornement et de sceau personnel. Les bagues gravées permettaient d'apposer un sceau sur les documents officiels ou les lettres, renforçant leur utilité au-delà de leur simple valeur esthétique. Les sandales ou soleées étaient le type de chaussures le plus courant, adaptées aux besoins de la vie quotidienne en ville. Les caliguées, quant à elles, étaient des chaussures robustes, portées par les soldats romains, symbole de leur discipline et de leur rôle central dans la défense de l'Empire. Ces sandales cloutées étaient conçues pour résister aux longues marches et aux terrains accidentés. Les citoyens ordinaires privilégiaient des modèles plus simples, souvent faits de cuir, tandis que les élites pouvaient se permettre des sandales ornées de motifs complexes. L'apparence des femmes romaines, bien que soumise à des normes différentes, reflétait également le souci du détail et de la présentation. Elles portaient des stolées, longues robes drapées, qui signalaient leur statut de citoyenne mariée et complétaient souvent leur tenue avec des palas, des manteaux ou des voiles élégants. Les coiffures élaborées, parfois extravagantes, et les bijoux raffinés, tels que les colliers, les bracelets et les boucles d'oreilles, étaient des marqueurs de leur richesse et de leur position sociale. Les femmes, tout comme les hommes, accordaient une attention particulière à leur hygiène et utilisaient des cosmétiques, souvent à base de produits naturels, pour embellir leur teint et souligner leurs traits. Dans la Rome antique, le travail et les activités économiques des citoyens romains constituaient un pilier essentiel de la société, reflétant une grande diversité d'occupations et une hiérarchie sociale profondément ancrée. Les citoyens romains, bien que bénéficiant de nombreux privilèges, participaient activement à l'économie selon leur rang social, leur richesse et leur ambition personnelle. Les métiers courants couvraient un éventail allant des fermiers et artisans aux commerçants et professionnels juridiques. La majorité des citoyens de la classe moyenne et inférieure exerçaient des activités liées à l'agriculture, la fabrication ou le commerce. La culture agricole, base de l'économie romaine, occupait une place centrale. Les petits fermiers cultivaient souvent des céréales, des légumes ou des vignes sur des terres qu'ils possédaient ou louaient. Ils représentaient l'épine dorsale de l'approvisionnement en nourriture pour les villes, même si les grandes exploitations appelés latifundia, dominés par les élites et exploités par des esclaves, concurrençaient largement les fermes modestes. Les artisans romains étaient également essentiels à l'économie, produisant des objets de la vie quotidienne, comme des poteries, des textiles, des armes ou encore des bijoux. Ces artisans travaillaient souvent dans des ateliers familiaux ou dans des tabernées, des boutiques situées le long des rues animées de Rome. Le commerce jouait un rôle primordial, notamment dans une ville comme Rome, où la population atteignait 1 million d'habitants à son apogée. Les marchés grouillaient de marchands vendant des produits locaux ou importés de l'ensemble de l'Empire, comme l'huile d'olive d'Espagne, le vin de Gaule ou bien des épices venues de l'Inde. Le forum, centre économique et politique, constituait le cœur des échanges. C'est là que se rassemblaient les marchands, les clients et les acheteurs. Et ce, afin de négocier des prix, échanger des marchandises ou régler des différends commerciaux. Le rôle de l'esclavage dans l'économie romaine est impossible à ignorer. Les esclaves constituaient la principale force de travail dans presque tous les secteurs, qu'il s'agisse de l'agriculture, de la construction ou encore des tâches domestiques. Cette dépendance à l'égard des esclaves créait un contraste marqué entre les citoyens libres, qui possédaient des droits civiques et des opportunités économiques, et les esclaves, dépourvus de liberté et considérés comme des biens meubles. Les citoyens romains, en tant que propriétaires d'esclaves ou employeurs de travailleurs libres, profitaient directement de ce système pour accroître leur richesse et leur influence. Cependant, pour les citoyens modestes, la concurrence avec le travail esclave représentait un défi majeur, limitant leurs possibilités économiques. Pour les citoyens les plus ambitieux, les activités économiques ne se limitaient pas aux professions artisanales, commerciales. Les rôles prestigieux incluaient des carrières militaires ou politiques, réservées aux citoyens influents et bien connectés. Servir dans l'armée, notamment comme officier, était considéré comme un honneur et une voie vers la richesse et la reconnaissance. Les victoires militaires pouvaient apporter butin et gloire, tout en ouvrant la voie à des positions politiques importantes. Dans la sphère politique, les magistratures, telles que celles de consul, préteur ou édile, étaient à la fois des fonctions honorifiques et des opportunités d'exercer un pouvoir considérable sur la vie publique et économique. Ces postes étaient souvent financés par la richesse personnelle, car les citoyens riches étaient attendus pour organiser des jeux publics, construire des bâtiments ou même distribuer du blé à la population. Les citoyens fortunés jouaient également un rôle de mécène dans l'économie et la culture. Ils finançaient souvent la construction d'infrastructures comme des routes, des ponts ou des aqueducs, contribuant ainsi à la prospérité générale de l'Empire. En retour, ces gestes philanthropiques renforçaient leur prestige et leur position sociale, créant un cercle vertueux de pouvoir et d'influence. Ces pratiques de patronage étaient aussi une manière de s'assurer le soutien de leurs clients, un système complexe où les citoyens moins riches dépendaient des recommandations et des ressources de leurs patrons pour prospérer. Le soir venu, après une journée de labeur ou d'affaires, les citoyens se retrouvaient pour des repas ou des activités sociales. Mais leur vie économique ne s'arrêtait jamais complètement. Même les banquets pouvaient être des occasions de discuter de commerce ou de politique, de forger des alliances ou d'échanger des idées. Cette interaction constante entre la vie sociale et économique reflétait l'esprit entrepreneurial des Romains et leur volonté d'intégrer chaque aspect de leur existence dans une quête de prospérité et de statut. Dans la Rome antique, les loisirs et la culture occupaient une place centrale dans la vie des citoyens, reflétant leur goût pour le divertissement, la compétition et les activités intellectuelles. Ces moments de détente et de célébration étaient étroitement liés à la hiérarchie sociale, aux valeurs romaines et à la grandeur de l'Empire. Les spectacles publics étaient sans doute les formes les plus populaires de loisirs, attirant des foules immenses venues chercher distraction et excitation. Les jeux du cirque, notamment, les courses de chars et les combats de gladiateurs, constituaient les événements les plus attendus. Le Circus Maximus, immense structure dédiée aux courses de chars, pouvait accueillir jusqu'à 150 000 spectateurs. Ces courses opposaient des équipes, appelées factions, identifiables par leurs couleurs, rouge, bleu, vert ou blanc, et les rivalités entre supporters étaient parfois si intenses qu'elles provoquaient des émeutes. Les conducteurs de chars, bien que souvent d'origine modeste ou esclave, pouvaient gagner une immense richesse et popularité en cas de succès. Le Colisée ou amphithéâtre flavien était l'autre grande scène des loisirs romains. Ce monument emblématique, capable d'accueillir environ 50 000 spectateurs, offrait des programmes spectaculaires subventionnés par l'empereur ou de riches citoyens cherchant à gagner les faveurs du peuple. Les combats de gladiateurs y occupaient une place d'honneur. Ces affrontements mettaient en scène des professionnels hautement entraînés souvent des esclaves ou des prisonniers de guerre, qui combattaient pour leur survie ou leur liberté. En plus des combats de gladiateurs, les spectacles pouvaient inclure des chasses aux animaux exotiques, lions, tigres et même éléphants, ou bien même des reconstitutions navales appelées naumachies, lorsque la reine était inondée pour simuler des batailles maritimes. Ces divertissements servaient non seulement à amuser la foule, mais aussi à renforcer le pouvoir de l'élite qui se présentait comme généreuse et soucieuse du bien-être du peuple. Parallèlement à ces spectacles de masse, la culture romaine accordait une grande importance à l'éducation, à la littérature et à la philosophie. Les citoyens cultivés participaient souvent à des lectures publiques ou à des récitations de poèmes, des occasions où les auteurs présentaient leurs œuvres devant un auditoire attentif. Les théâtres romains accueillaient également des pièces comiques et dramatiques, notamment celles de Plaute et Terence, deux des auteurs les plus célèbres de l'époque républicaine. Leurs œuvres, inspirées du théâtre grec, exploraient des thèmes universels comme l'amour, la ruse et les conflits familiaux, tout en offrant une satire des mœurs de leur temps. Les citoyens aisés prenaient souvent part à ces événements culturels dans le cadre de leur éducation et de leur vie sociale, cultivant leur esprit tout en renforçant leur statut au sein de la communauté. L'éducation elle-même était un élément fondamental de la culture romaine, particulièrement pour les familles riches. Les enfants des élites recevaient une formation rigoureuse en grammaire, rhétorique et philosophie, souvent sous la direction de précepteurs grecs. Cette éducation avait pour objectif de former des orateurs et des dirigeants capables de participer activement à la vie politique et civique. Les discussions philosophiques étaient également très prisées, avec des écoles de pensée comme le stoïcisme ou l'épicurisme qui influençaient profondément les citoyens éduqués. Les écrits de Cicéron, Sénèque ou bien encore Épictète témoignent de cette quête intellectuelle tout en reflétant les préoccupations morales et politiques de leur époque. Les banquets représentaient un autre aspect essentiel des loisirs et de la culture des citoyens romains, offrant un cadre où se mêlaient plaisirs gastronomiques, conversations et ostentations. Comme on l'a vu, les repas somptueux, appelés cénas, étaient un moment clé de la journée pour les riches citoyens qui voyaient dans ces occasions une opportunité de démontrer leur richesse et leur raffinement. Les banquets étaient souvent composés de plusieurs services avec des mets variés comme des fruits de mer, des viandes exotiques et des pâtisseries. Le vin, mélangé à de l'eau selon la tradition grecque, coulait abondamment, favorisant les débats animés et les échanges intellectuels. Des convives, allongés sur des lits autour de grandes tables, discutaient de politique, de philosophie ou d'affaires, tout en écoutant des musiciens ou des poètes engagés pour l'occasion. Ces moments intimes mais sophistiqués reflétaient la manière dont les élites romaines combinaient plaisir et ambition sociale. Pour les citoyens de classe plus modeste, les loisirs étaient souvent moins luxueux, mais tout aussi importants dans leur quotidien. En dehors des villes, les loisirs prenaient une dimension différente, souvent liée à la nature et à la vie rurale. La chasse et la pêche étaient des activités prisées par les citoyens aisés qui possédaient des villas à la campagne. Ces escapades leur permettaient non seulement de profiter du calme et de la beauté de la campagne, mais aussi de démontrer leur maîtrise et leur courage face aux éléments. Les riches propriétaires terriens organisaient également des banquets en plein air ou des fêtes religieuses pour leurs proches et leurs clients, renforçant les liens sociaux au sein de leur communauté. Dans la Rome antique, la religion et les pratiques spirituelles étaient au cœur de la vie des citoyens, imprégnant tous les aspects de leur quotidien, qu'il s'agisse de leur vie domestique, sociale ou politique. La religion romaine était une mosaïque complexe, mêlant dieux domestiques, cultes publics, fêtes religieuses, superstitions et rites divinatoires. Les citoyens romains considéraient qu'une relation harmonieuse avec les dieux, ou pax deorum, était essentielle pour garantir la prospérité personnelle et la stabilité de la communauté. Cette piété s'exprimait dans des rites variés, allant des prières privées aux cérémonies publiques somptueuses. Au sein des foyers, la religion domestique occupait une place centrale. Comme on l'a vu, les lares et les pénates, divinités protectrices du foyer et de la famille, étaient vénérées quotidiennement. Chaque maison romaine possédait un petit autel, souvent situé dans l'atrium, où les membres de la famille offraient des prières, de l'encens ou des offrandes alimentaires. Ces pratiques soulignaient l'importance de la famille comme unité de base de la société romaine et rappelait que les citoyens devaient honorer leurs ancêtres et les esprits protecteurs pour assurer leur bien-être. Avant de partir en voyage ou d'entreprendre une tâche importante, les Romains consultaient souvent ces divinités domestiques pour obtenir leur bénédiction. Parallèlement, les cérémonies publiques et les cultes officiels jouaient un rôle essentiel dans la vie collective. Les temples dédiés aux grands dieux du panthéon romain, tels que Jupiter, Junon, Mars ou Vénus, dominaient les places publiques. Les prêtres ou flamines supervisaient les rituels, tandis que les augures interprétaient la volonté divine à travers l'observation des oiseaux ou d'autres signes naturels. Les sacrifices étaient au cœur de ces pratiques. Offrir des animaux comme des bœufs, des moutons ou des porcs permettait de demander la faveur divine ou de remercier les dieux pour leur bénédiction. Ces rituels, souvent accompagnés de prières et de chants, se déroulaient lors de grandes fêtes ou à des moments clés de la vie politique, comme la prise de fonction d'un magistrat. Le calendrier romain était rythmé par des fêtes religieuses qui structuraient l'année et renforçaient le lien entre les citoyens et leurs divinités. Les Saturnales, célébrées en décembre, figuraient parmi les festivités les plus emblématiques. Ces fêtes dédiées au dieu Saturne marquaient une période de renversement des rôles sociaux. Les esclaves étaient temporairement libérés de leurs obligations et les maîtres leur servaient à table. Une inversion symbolique qui soulignait l'esprit de détente et d'égalité associé à cette période. Les Saturnales étaient également l'occasion d'échanges et des cadeaux, une tradition qui inspira en partie les fêtes de Noël dans les siècles suivants. D'autres célébrations, comme les Lupercales ou les Jeux séculaires, avaient des significations spécifiques, qu'elles soient liées à la fertilité, à la purification ou au renouvellement de la communauté. Les superstitions et la divination jouaient également un rôle majeur dans la spiritualité romaine. Les citoyens étaient profondément attentifs aux signes divins qu'ils interprétaient comme des messages des dieux. Les augures, experts dans l'étude des oiseaux, observaient leur vol ou leur comportement pour prédire l'avenir. Les aruspices, souvent d'origine étrusque, examinaient les entrailles des animaux sacrifiés, comme le foie ou le cœur, pour obtenir des réponses aux questions importantes. Ces pratiques, bien que parfois contestées par les philosophes sceptiques, étaient largement acceptées et considérées comme essentielles pour prendre des décisions majeures, qu'il s'agisse de partir en guerre, de bâtir une nouvelle ville ou bien de célébrer un mariage. La religion romaine ne se limitait pas au culte traditionnel. Elle évoluait constamment, absorbant les influences des cultures conquises. Les dieux grecs, par exemple, furent largement assimilés au panthéon romain, avec des correspondances établies entre les divinités grecques et romaines. De même, des cultes orientaux, comme celui d'Isis, déesse égyptienne, ou de Mithra, divinité perse, gagnèrent en popularité, surtout parmi les soldats et les marchands. Ces cultes introduisirent des pratiques mystiques et des rites d'initiation, offrant à leurs adeptes une dimension plus personnelle et spirituelle de la religion, parfois absente des cultes publics. Les pratiques religieuses romaines reflétaient également la structure hiérarchique de la société. Les citoyens riches et influents finançaient souvent des temples, des cérémonies ou des jeux religieux, renforçant ainsi leur prestige et leur position sociale. L'empereur, en tant que Pontifex Maximus ou Grand Pontife, était le chef religieux suprême, garantissant la cohésion entre le pouvoir politique et la sphère divine. Les empereurs étaient souvent déifiés après leur mort, un culte impérial qui consolidait leur autorité et unifiait l'empire autour de leur personne. La religion romaine, bien qu'éminemment pragmatique et rituelle, n'excluait pas une certaine spiritualité individuelle. Des philosophes comme Cicéron ou Sénèque exploraient les questions métaphysiques, encourageant une approche plus introspective de la relation entre l'homme et les dieux. Cette dimension personnelle coexistait avec les pratiques collectives, illustrant la richesse et la diversité de la vie spirituelle romaine. La santé et l'hygiène occupaient une place essentielle dans la vie des citoyens romains, au point de devenir des piliers de leur civilisation. La médecine romaine, fortement influencée par les savoirs grecs, combinée à une infrastructure publique impressionnante, comme les aqueducs et les thermes, témoignait d'une société qui accordait une grande importance au bien-être collectif et individuel. Bien que les connaissances médicales soient encore rudimentaires, selon nos standards modernes, les Romains avaient développé des systèmes pratiques et des pratiques d'hygiène qui surpassaient celles de nombreuses autres cultures de l'Antiquité. La médecine romaine puise une grande partie de ses fondements dans l'héritage grec. Des figures comme Hippocrate, souvent considéré comme le père de la médecine, et Galien, qui exerça à Rome au IIe siècle après Jésus-Christ, influencèrent profondément la manière dont les Romains comprenaient le corps humain et les maladies. Hippocrate avait introduit la théorie des quatre humeurs, sang, bile jaune, bile noire et phlegme, qui devaient rester centrales dans la médecine romaine. Galien, de son côté, perfectionna ses idées et les adapta aux pratiques de son époque, réalisant des dissections animales pour approfondir ses connaissances en anatomie. Les plantes médicinales étaient également au cœur des traitements. Les Romains utilisaient des herbes comme la sauge, le fenouil ou la camomille pour soigner divers maux, tandis que des onguents à base de miel ou d'huile d'olive étaient employés pour désinfecter les plaies. Ces remèdes étaient souvent préparés par des médecins itinérants ou des femmes au sein des foyers. L'un des aspects les plus emblématiques de la santé romaine était l'importance des bains publics, qui représentaient bien plus qu'un simple lieu de nettoyage. Les thermes étaient des espaces polyvalents où se mêlaient hygiène, sport, détente et socialisation. Comme on l'a vu, les citoyens, quel que soit leur rang social, se rendaient régulièrement aux thermes pour se laver, pratiquer des exercices physiques ou simplement discuter. Ces établissements comprenaient généralement plusieurs espaces, comme le caldarium, les bains chauds, le tepidarium, les bains tièdes, et le frigidarium, les bains froids, permettant une expérience complète. Les thermes les plus luxueux pouvaient également inclure des bibliothèques, des jardins ou bien des salles de massage. Un exemple remarquable est celui des thermes de Caracalla, inaugurés au IIIe siècle après Jésus-Christ à Rome. Ces thermes colossaux, capables d'accueillir plusieurs milliers de personnes en même temps, étaient équipés d'un système sophistiqué de chauffage par hypocauste, qui utilisait des conduits sous le sol pour maintenir l'eau et l'air à une température agréable. Au-delà des bains publics, les Romains étaient également connus pour leur avancée dans la gestion des infrastructures sanitaires. L'eau, élément vital, était acheminée vers les villes grâce à un réseau d'aqueducs impressionnant. Ces ouvrages d'ingénierie, construits avec une précision remarquable, permettaient de transporter l'eau depuis des sources éloignées jusqu'aux cités, alimentant non seulement des thermes, mais aussi les fontaines publiques et les habitations privées des classes aisées. Les aqueducs comme l'Aqua Appia ou l'Aqua Claudia témoignent du savoir-faire technique des ingénieurs romains. L'eau était ensuite distribuée selon un système hiérarchique où les citoyens riches avaient accès à des quantités plus importantes, tandis que les pauvres dépendaient des fontaines publiques. Un autre aspect clé de l'hygiène publique romaine était la gestion des eaux usées. Les Romains comprenaient l'importance de se débarrasser des déchets organiques pour prévenir les épidémies. Pour ce faire, ils construisirent des égouts sophistiqués, dont le plus célèbre est la Cloaca Maxima, un des plus anciens systèmes d'égouts de Rome. Ce réseau souterrain collectait les eaux usées des maisons et des bains pour les acheminer vers le Tibre, contribuant ainsi à maintenir la propreté des rues et à réduire les risques de maladies. Ce système d'assainissement était si avancé qu'il servit de modèle à certaines infrastructures modernes. Cependant, bien que ces mesures aient permis d'améliorer les conditions de vie dans les villes, elles n'étaient pas exemptes de limitations. Les quartiers les plus pauvres, souvent densément peuplés, étaient plus exposés aux problèmes sanitaires, car les ressources et les infrastructures étaient insuffisantes pour répondre aux besoins de tous. Malgré ces avancées, les citoyens romains n'étaient pas à l'abri des maladies. Les épidémies étaient fréquentes, en particulier dans les zones urbaines où la population était dense. Des maladies comme la malaria, la dysenterie ou encore des infections respiratoires étaient courantes. Les médecins, bien que compétents pour leur époque, avaient des outils limités pour lutter contre ces fléaux. La médecine reposait autant sur les traitements physiques que sur des pratiques superstitieuses. Les amulettes, les prières et les rituels faisaient souvent partie du processus de guérison, car les Romains croyaient que certaines maladies pouvaient être causées par la colère des dieux ou des forces surnaturelles. Enfin, il est important de noter que les pratiques d'hygiène et de santé variaient considérablement selon les classes sociales. Les riches avaient un accès privilégié à des médecins personnels, des bains privés et une alimentation plus saine, tandis que les citoyens moins fortunés devaient se contenter des installations publiques et des remèdes populaires. Cette inégalité reflétait les dimensions sociales de la société romaine, mais elle soulignait aussi l'importance des infrastructures collectives qui contribuaient à élever les conditions de vie générales. Dans la Rome antique, la famille constituait le fondement de la société et jouait un rôle central dans l'éducation, les valeurs morales et la transmission des traditions. La structure familiale était patriarcale, avec le pater familias à sa tête, exerçant une autorité absolue sur tous les membres de la maisonnée. Ce chef de famille détenait le pouvoir de décision sur les biens, les mariages et même la vie ou la mort de ses proches, bien que cette dernière prérogative ait rarement été exercée dans la pratique. Le pater familias représentait également la famille devant la société, les tribunaux et les dieux, organisant les rites religieux domestiques pour honorer les lares et les pénates, protecteurs du foyer. Les femmes, bien que subordonnées, occupaient une place importante dans la gestion quotidienne de la maison et l'éducation des jeunes enfants, en particulier dans les premières années. L'éducation des enfants romains reflétait les valeurs et les ambitions de leur famille. Chez les citoyens romains, elle commençait souvent à la maison, où les mères ou des précepteurs, souvent des esclaves grecs, enseignaient aux plus jeunes les rudiments de la lecture, de l'écriture et du calcul. Ces premières années étaient cruciales pour inculquer aux enfants les bases de la morale romaine, notamment le respect envers les aînés, la piété envers les dieux et la discipline. Dès l'âge de 7 ans, les garçons des familles aisées fréquentaient des écoles primaires dirigées par un littérator où ils perfectionnaient leurs compétences en lecture, écriture et mathématiques. Par la suite, ils pouvaient accéder à des écoles de niveau supérieur dirigées par des grammatici où ils étudiaient la littérature grecque et latine, apprenant à réciter et analyser les grandes œuvres d'auteurs comme Homère, Virgile ou Cicéron. Cette éducation classique visait à former des orateurs éloquents et des citoyens capables de participer activement à la vie publique. En revanche, les enfants issus de milieux modestes avaient rarement accès à ces formes d'éducation formelle. Leur apprentissage se faisait principalement par l'observation et la pratique. Les garçons apprenaient le métier de leur père, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'artisanat ou du commerce, tandis que les filles étaient formées aux tâches domestiques par leur mère. Cette différence d'accès à l'éducation accentuait les inégalités sociales, car la maîtrise de l'éloquence et des lettres acquises dans les écoles était souvent la clé de l'ascension sociale et politique. Pour les jeunes garçons des élites, l'étape ultime de leur formation était souvent l'enseignement dispensé par un rhéteur, un maître spécialisé dans l'art de la parole publique. Ce type d'éducation était crucial pour ceux qui aspiraient à des carrières politiques ou juridiques, où l'éloquence était une compétence indispensable. Les exercices rhétoriques, comme les débats ou les plaidoyers fictifs, étaient conçus pour préparer les jeunes hommes à défendre des causes devant le Sénat ou les tribunaux. Une anecdote célèbre illustre l'importance de cette éducation rigoureuse. Le poète Horace, dans ses écrits, raconte comment son père, bien que n'étant pas riche, investit énormément pour lui offrir une éducation de qualité à Rome, l'éloignant des mauvaises influences et supervisant personnellement sa formation. Cette éducation stricte marqua profondément Horace, qui rendit hommage à son père pour avoir façonné son caractère et son succès futur. La vie familiale romaine était également rythmée par des événements et des rites qui renforçaient les liens entre ses membres. Les mariages, souvent arrangés pour des raisons politiques ou économiques, symbolisaient l'alliance entre deux familles et impliquaient des cérémonies fastueuses pour les plus riches. Une fois mariée, la femme romaine, bien que juridiquement dépendante de son mari ou de son père, jouait un rôle essentiel dans l'éducation des enfants et la gestion du foyer. Les mères romaines enseignaient à leurs filles les vertus de la modestie, de l'obéissance et de la gestion domestique, des qualités jugées indispensables pour devenir une bonne épouse et mère. Les fils, quant à eux, recevaient des leçons de morale et de discipline de leur père, qui leur inculquait les principes du courage, de la loyauté et du service envers la République. La vie des enfants romains n'était pas exempte de loisirs. Les jouets tels que des poupées en terre cuite, des cerceaux ou des osselets occupaient une place importante dans leur quotidien, tout comme les jeux en plein air. Ces activités n'étaient pas seulement récréatives, elles contribuaient aussi à leur apprentissage social et physique. Les jeunes garçons des familles riches pratiquaient souvent des exercices physiques, comme la lutte ou la course, pour se préparer à leur futur rôle de citoyen-soldat. Les filles, en revanche, étaient davantage confinées aux activités domestiques, bien que certaines aient pu recevoir une éducation plus approfondie si leur famille en voyait l'utilité. À mesure que les enfants grandissaient, leur rôle dans la famille et la société évoluait. Les garçons devenaient officiellement citoyens romains à l'âge de 16 ou 17 ans, lors d'une cérémonie appelée « toga virilis », où ils échangeaient leur toge prétexte, ornée d'une bordure pourpre, contre la toge unie des adultes. Cet événement marquait leur entrée dans la vie publique et leur reconnaissance en tant que membre à part entière de la société romaine. Pour les filles, le passage à l'âge adulte était souvent symbolisé par leur mariage, qui intervenait généralement à l'adolescence. En dépit de cette vision idéalisée de la vie familiale, les familles romaines n'étaient pas exemptes de tensions et de défis. Les mariages pouvaient être marqués par des conflits, et le divorce, bien que rare au début de la République, devint plus courant sous l'Empire. Les relations entre générations pouvaient également être complexes, surtout lorsque les fils cherchaient à s'émanciper de l'autorité du pater familias. Par ailleurs, la mortalité infantile élevée rappelait constamment la fragilité de la vie, ce qui renforçait l'importance des rituels religieux et des pratiques protectrices au sein du foyer. La vie quotidienne des citoyens romains, bien que marquée par des moments de grandeur et de prospérité, était également jalonnée de défis et d'insécurité, tant sur le plan urbain que politique. Les habitants de Rome, qu'ils soient riches ou pauvres, devaient composer avec des menaces constantes qui reflétaient à la fois les avancées et les limites de la civilisation romaine. La ville de Rome elle-même, immense et densément peuplée, représentait un théâtre où se jouaient à la fois des scènes de luxe inégalé et de grande précarité où les dangers pouvaient surgir à tout moment. Comme on l'a vu dans les quartiers populaires de Rome, où vivaient la majorité des citoyens, les insulés, ces fameux immeubles de plusieurs étages construits en bois et en briques, étaient le cœur de la vie quotidienne. Toutefois, ces habitations représentaient également une menace constante pour leurs occupants. En effet, les insulés, souvent construites rapidement et sans respecter des normes de sécurité rigoureuses, étaient sujettes à des effondrements fréquents. Ces bâtiments abritaient de nombreuses familles dans des espaces restreints où chaque étage supérieur offrait des logements de moins bonne qualité que ceux du bas, accessibles seulement aux plus riches. Les conditions de vie exiguës et insalubres rendaient ces lieux particulièrement vulnérables aux incendies, un fléau récurrent dans la ville. Avec des lampes à huile comme principale source de lumière et des foyers rudimentaires utilisés pour cuisiner, le risque de départ de feu accidentel était omniprésent. Lorsqu'un incendie se déclarait, les rues étroites et encombrées de Rome rendaient les interventions difficiles, entraînant souvent des destructions massives. Un des exemples les plus marquants de ces dangers est le grand incendie de Rome en 64 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Néron. Cet incendie dévastateur détruisit une grande partie de la ville, laissant des milliers de citoyens sans abri et exacerbant les tensions sociales. Si certains accusèrent Néron d'avoir lui-même provoqué le feu pour réaliser ses ambitieux projets de reconstruction, l'empereur tenta de redorer son image en organisant une aide d'urgence et en lançant un vaste programme de reconstruction. De nouvelles réglementations furent mises en place pour limiter l'utilisation du bois dans les constructions et élargir les rues. Mais ces mesures ne purent complètement éradiquer les risques liés à la densité urbaine et aux constructions précaires. Outre les dangers liés à l'habitat, la vie romaine était également marquée par des épidémies et des maladies qui se propageaient rapidement dans les quartiers surpeuplés. Bien que les Romains aient réalisé des avancées significatives en matière de gestion des eaux et d'hygiène, notamment grâce aux aqueducs et à la Cloaca Maxima, le grand égout de la ville, ces infrastructures ne suffisaient pas à prévenir les problèmes sanitaires. Les bains publics, lieux essentiels pour l'hygiène et la sociabilité, pouvaient également devenir des foyers de propagation de maladies, et ce, en raison de la forte fréquentation. La variole, le paludisme et des infections intestinales figuraient parmi les fléaux récurrents qui affectaient toutes les couches de la société. À ces menaces urbaines s'ajoutaient les insécurités politiques, omniprésentes dans une Rome souvent agitée par des luttes de pouvoir et des intrigues. La République romaine, puis l'Empire, furent le théâtre de nombreuses violences politiques où les citoyens romains, pouvaient se retrouver pris dans des conflits dépassant leur contrôle. Les assassinats de figures emblématiques, comme Jules César en 44 avant Jésus-Christ, témoignent de l'instabilité qui pouvait surgir même au sommet de l'État. Sous le régime impérial, cette insécurité politique prit une autre forme avec l'émergence d'un climat de délation et de répression, particulièrement sous des empereurs autoritaires tels que Néron ou Domitien. Sous Néron, par exemple, la suspicion et la peur régnaient. Les accusations de trahison pouvaient être instrumentalisées pour éliminer des rivaux ou confisquer leurs biens, et personne n'était à l'abri, pas même les sénateurs ou les proches de l'empereur. Le célèbre philosophe Sénèque, initialement conseiller de Néron, finit par tomber en disgrâce et fut contraint au suicide après avoir été accusé de comploter contre l'empereur. Ce climat de terreur paralysait non seulement l'élite romaine, mais instillait également un sentiment d'insécurité parmi les citoyens ordinaires qui devaient naviguer avec prudence dans un environnement politique imprévisible. Face à ces défis, les Romains faisaient preuve d'une remarquable résilience, trouvant des moyens de surmonter les crises et de maintenir leur mode de vie. Les grandes catastrophes, comme l'incendie de 64, donnaient souvent lieu à des efforts collectifs pour reconstruire et améliorer la ville. Néron, malgré les critiques à son encontre, mit en œuvre des réformes pour prévenir de futurs incendies, tout en ordonnant la construction de bâtiments plus solides et mieux conçus. Ces initiatives témoignaient de la capacité des Romains à tirer des leçons des désastres et à renforcer leur infrastructure. De même, les pratiques religieuses jouaient un rôle crucial dans la gestion des insécurités de la vie quotidienne. Les citoyens cherchaient à apaiser les dieux par des sacrifices, des prières et des cérémonies publiques, espérant ainsi attirer leur protection. En période de crise, des rites spécifiques, comme les supplications collectives ou les jeux votifs, étaient organisés pour demander l'aide divine. La religion servait ainsi de moyen d'unir la communauté face aux défis et de redonner espoir à ceux qui en avaient besoin. Enfin, les inégalités sociales exacerbaient souvent les défis auxquels les citoyens faisaient face. Si les riches pouvaient se réfugier dans leurs vastes villas, protégés des incendies et des maladies par des conditions de vie plus salubres, les classes populaires n'avaient d'autre choix que de s'adapter aux dangers constants de leur environnement. Et voilà, c'est la fin de notre immersion dans la vie quotidienne des citoyens romains. Avant de se quitter, saviez-vous que les Romains avaient une superstition bien particulière? En effet, pour lire l'avenir, ils utilisaient un récipient en terre cuite recouvert d'une pellicule d'eau. Si ce miroir improvisé se brisait, la personne venue consulter l'oracle était déclarée maudite pendant 7 ans, ce qui correspondait aux âges de la vie divisés de 7 en 7 ans chez les Romains. Une superstition qui au final a traversé les âges pour parvenir jusqu'à nous. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don via Tipeee ou en cliquant sur le bouton Merci juste en dessous de la vidéo. Chaque contribution étant la bienvenue. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très bientôt ou à tout de suite si vous décidez de visionner une autre vidéo de la chaîne.